Nous allons commencer l'après-midi par une intervention de Bertrand Calange, qu'on ne présente plus, mais bon, qui est directeur des études à l'ENSIB, donc sur la constitution et l'usage des collections physiques et numériques et les changements auxquels il faut se préparer. Merci. À vous.
Merci. Peut-être laisser les derniers s'asseoir. Bien. Bonjour à tous et à toutes. Donc la question qui m'était posée pour ce début d'après-midi était collection physique et collection numérique. Quel changement à prévoir, anticiper, à envisager ? C'est assez angoissant d'engager cette intervention après celle de Frédéric Sabie et Florence Roche ce matin, qui ont gentiment déclaré que la collection n'existait plus. Mais comme ils ont également dit, Frédéric l'a dit, qu'on ne peut pas penser la bibliothèque sans la collection, je me sens tout de même autorisé à aborder la question qui m'a été posée. C'est intéressant d'ailleurs de poser la question sous l'angle collection physique et collection numérique. C'est une proposition duale qui montre bien à quel point il existe en fait une tendance forte à isoler l'une de l'autre les collections physiques et les ressources numériques. Je vais utiliser dans un début le mot ressources numériques volontairement plutôt que collection numérique, qui pour moi a un sens un peu particulier. Oui, on veut les isoler l'une de l'autre, alors qu'elles participent du même projet informatif, éducatif, culturel, et qu'elles impactent des bibliothèques qui, elles, restent toujours uniques, bien toujours des établissements et des institutions qui ne sont pas scindées en deux, des budgets qui sont globaux, et vous savez à quel point ces budgets sont frappés aujourd'hui, et ils frappent évidemment et le numérique et l'imprimé ou les documents physiques, et enfin, des bibliothécaires qui sont tous appelés à affronter cette constellation qui mélange le physique et le numérique. Ceci dit, alors que les ressources numériques grandissent de façon prodigieuse, les bibliothèques, je parlerai essentiellement là, il n'y a pas de raison, ce matin, Frédéric Sabie et Florence Roche ont beaucoup parlé des bibliothèques universitaires, un regard qui est peut-être plus historiquement, enfin de mon histoire personnelle, tourné vers les bibliothèques municipales et départementales, les bibliothèques restent profondément ancrées dans une préoccupation des collections essentiellement physiques. Le rapport de l'inspection générale qui est paru en mars 2013, si vous vous souvenez, qui s'appelait « Quels emplois dans les bibliothèques ?» montre bien à quel point, si les ressources numériques grandissent en nombre et en importance dans les politiques des établissements, les ressources humaines restent encore très imparfaitement partagées entre le souci du physique et le souci du numérique. Et la part des ressources humaines qui est consacrée au numérique reste très, très, très limitée à quelques emplois, d'ailleurs plutôt de cadres de spécialistes, alors que la majorité des personnels se trouvent engagés dans la gestion des flux des collections physiques. Il y a donc une tentation réelle qui est d'isoler la question numérique du reste des activités et ressources, d'y dédier quelques bibliothécaires experts qui construiront leurs propres outils. Bref, de séparer la question des collections physiques de celle des ressources numériques. Et c'est un petit peu pour alerter sur cette tendance à la dissociation que j'ai voulu organiser mon intervention en contrepoint de cette tendance forte. Bon, il est vrai que l'arrivée des ressources numériques provoque d'énormes changements. D'énormes changements, ils ont été rappelés en bonne partie ce matin, sur la façon dont on n'acquiert pas titre à titre des ressources numériques, on le sait bien, ou du moins sauf pour les e-books. On a des contraintes technologiques, on n'achète pas les documents, on achète un droit d'accès. Bref, tout un ensemble de problèmes se posent, sans parler bien entendu de la question de l'acculturation des publics aux ressources numériques, acculturation qui est beaucoup plus faible que ne le montrent les chiffres de connexion à Internet. Être connecté ne signifie pas utiliser, du moins sur un plan informatif. Je pense cependant que malgré ce changement profond, cette évolution profonde, nous n'en sommes pas au point où il faudrait renoncer à imaginer les contours d'une politique documentaire hybride, pour reprendre un terme qui a connu les beaux jours dans les années 90, Peter Brophy qui avait popularisé cela en France, la bibliothèque hybride qui réunit les diverses ressources au sein d'un projet unifié, qui est un projet documentaire et un projet de communication et de transmission et d'émergence de savoir, pour reprendre l'expression de ce matin, auprès des publics. C'est ce que je vous propose de parcourir à travers ce que j'ai distingué en cinq facettes. Cinq facettes qui aborderont les changements sous différents points de vue, quelquefois avec des balancements, un peu du genre atout, contrainte, mais peut-être plus encore que atout, contrainte, ce qui change et ce qui reste. Ce qui change et ce qui est toujours la même chose. Ma première facette, je l'intitule « Les collections au risque des accès ». Je commencerai par une banalité. Une collection, au sens bibliothécaire où nous l'entendons, c'est fondamentalement un ensemble de documents stables, achevés et manipulables. Toutes les réflexions et toutes les activités entreprises autour des collections reposent sur cette évidence. On peut les cataloguer, signant leur achèvement. On va les ranger, on va les déplacer, on va s'en débarrasser. On va manipuler l'ensemble de ces ressources. Et cette stabilité se retrouve également dans les modèles économiques qui régissent les documents matériels, qui sont relativement stabilisés sur des modèles économiques éprouvés, des codes connus dans lesquels le bibliothécaire se meut à peu près aisément et fondamentalement, malgré quelques soubresauts réglementaires et législatifs, je ne vois pas beaucoup de différence entre la situation d'il y a 40 ans et la situation d'aujourd'hui concernant ces documents physiques. Les ressources numériques, à l'inverse, elles sont en fait insaisissables. Sauf quand il s'agit de fichiers numériques qu'on a acquis par achat, qui reste quand même très rare, même si les formulaires statistiques s'empressent de le demander, combien avez-vous acheté de fichiers numériques ? Drôle de question. Ou aussi beaucoup, heureusement, par numérisation en intra des établissements qui numérisent les collections, notamment patrimoniales, dont ils disposent. Pour la plupart des autres ressources numériques dont on peut disposer, on ne les possède pas. Là, je répète des banalités, vous le savez tous encore mieux que moi, mais on dispose d'un droit d'accès dont la pérennité n'est jamais garantie. Les coûts de ces accès, à l'évolution très variable, en risque hasardeuse, la gestion budgétaire prévisionnelle. Je me réfère par exemple à un billet qui m'a assez impressionné, qui est paru récemment, sur le site de la Bibliothèque interuniversitaire de santé, qui était impressionnant dans la mesure où les abonnements essentiels à la recherche médicale ont dû être arrêtés, faute d'argent. Et dans la liste qui est proposée de ces ressources qui ont dû cesser, revient l'antienne, pas d'accès aux archives, pas d'accès aux archives, pas d'accès aux archives. Quand on sait la somme qui a été dépensée au long des années pour nourrir, en fin de compte, cette ressource inestimable d'une bibliothèque qui se veut aussi quand même la mémoire de la médecine et de la santé plus généralement, ça a quelque chose de terrifiant pour un bibliothécaire. Le risque avec les ressources numériques, c'est de se positionner dans le seul instant et d'abandonner l'atout originel des bibliothèques auquel je crois toujours, qui est la mémoire. La mémoire qui, en fait, fonde les bibliothèques. Ce matin, Frédéric disait que ce qui fonde la bibliothèque, c'est le choix, c'est aussi la mémoire. Ce n'est pas que le choix. C'est le choix qui se conserve, le choix que l'on peut transmettre. Et avec le numérique, on aurait plutôt tendance à agir en fonctionnant au coup par coup. On a une occasion, on a une remise sur un bouquet, on achète le bouquet, puis ma foi, dans 2 ans, on ne l'aura plus. Ce n'est pas grave. Dans 2 ans, on ne l'a plus. Dans 10 ans, qu'est-ce qui nous reste ? qu'est-ce qui nous reste ? On est très ennuyé. Et bien entendu, les bibliothécaires en sont conscients, essayent de poser des stratégies de conservation par le biais de consortiums, de négociations diverses. Mais il est clair, en tout cas, que la complexité et le coût de ces entreprises de concertation-conservation imposent une approche concertée, voire collaborative. Ça, c'est ce que je appellerais le côté sombre du numérique par rapport à notre vision des collections, qui peut être révisée, ça a été dit déjà ce matin, mais qui reste une réalité. Mais parallèlement, il y a quand même un côté tout à fait éclairant, qui est que grâce à ces ressources numériques, nous bénéficions dans chacune des bibliothèques où nous sommes d'un élargissement prodigieux des ressources informatives disponibles. Auparavant, la richesse d'une bibliothèque se cantonnait aux collections dont elle avait hérité et qu'elle achetait unité après unité, et ce gisement était en fin de compte leur seul levier d'action vis-à-vis d'une population à servir. C'était un levier qui n'était pas négligeable. Si on regarde les chiffres qu'on arrive à déduire des données du ministère de la Culture, qui fait des synthèses mais pas de données brutes malheureusement, en gros, les bibliothèques municipales en 2010 posséderaient 240 millions de livres, dont je n'ai pas réussi d'ailleurs à distinguer si ça comprenait la totalité du patrimoine ou pas, etc. Enfin, rien que 240 millions de livres, ça représente quand même quelque chose d'impressionnant. Donc, je disais, c'est un élargissement prodigieux des ressources informatives disponibles. Internet propose en accès immédiat et gratuit pour l'utilisateur en grande partie une masse gigantesque de données, quelquefois très affinées et très spécialisées. On voit des sites d'amateurs, de passionnés, des sites institutionnels se multiplier, tout source d'informations qui avant soit n'avaient pas d'expression écrite, et donc gisaient exclusivement dans le cerveau de leurs possesseurs, soit passaient par le biais de divers rapports, je pense à des institutionnels, qui étaient ensuite pieusement recueillis par les bibliothèques. Aujourd'hui, on y accède directement. C'est une ressource précieuse, à mon avis souvent sous-estimée, pour apporter au public l'information qu'il cherche et dans laquelle il ne sait pas toujours démêler les éléments pertinents. Aujourd'hui également, les complexités de la propriété intellectuelle, si elles apportent moult problèmes et indignations, la sphère professionnelle bruit des débats autour des questions de droits d'auteur, n'empêche que ces complexités mêmes offrent aussi l'occasion de profiter pleinement des œuvres qui relèvent du domaine public. Même une part non négligeable, même s'il reste encore très très minime, mais qui grandira, on peut l'espérer, de la production contemporaine, relève maintenant d'une stratégie d'open access. Nous avons la possibilité de récupérer ces documents librement, de les réagréger, les proposer à nos publics. Ça n'est pas négligeable. Vous n'avez plus Bugjargal de Victor Hugo dans vos collections imprimées ? Qu'à cela ne tienne, vous le trouverez librement, disponible et manipulable dans cet univers de façon libre et totalement utilisable pour reconstituer une bibliothèque sans pour autant courir les antiquariats. Encore que dans le cas de Bugjargal, il n'y a pas besoin d'aller si loin. C'est un atout qui est précieux. Deuxième facette, j'appellerais ça les icebergs invisibles. J'essaie de trouver des titres, mais enfin bon, je suis pas sûr que... Bon, après. ça scandait plus mon esprit que ça ne peut scander mon discours. En fait, à quoi assiste-t-on dans les bibliothèques municipales, mais surtout peut-être universitaires ? C'est que entre le foisonnement du numérique accessible facilement et gratuitement et les collections imprimées, il y a aussi toute la sphère gigantesque des ressources électroniques accessibles sur abonnement. Donc la bibliothèque va repérer des bouquets d'abonnements, voire des unités auxquelles elle va s'abonner de façon coûteuse pour donner accès à de vastes bases de données. Et pourtant, les évaluations sont claires. Dans les bibliothèques municipales, au moins, je serais moins affirmatif pour les bibliothèques universitaires, le public n'a qu'une faible connaissance de ces richesses exceptionnelles. Bien sûr, l'internaute expert saura toujours se débrouiller sans problème, mais comme il a toujours su se débrouiller, y compris dans des bibliothèques mal organisées. Comment le visiteur entrait dans la bibliothèque municipale pour trouver Bugjargal, dont je parlais tout de suite, saura que c'est dans sa face numérique que la bibliothèque est capable de lui proposer ce titre. Vous me direz, on le met dans le catalogue. Oui, vous connaissez la part du nombre de gens qui vont regarder dans le catalogue et qui comprennent quand ils voient une notice que là, il faut cliquer et qu'on arrive à un livre numérique. Elle est quand même bien faible. Le numérique ne pose pas que des problèmes de gestion. Il pose aussi des problèmes de lisibilité dans ce lieu de rencontre et de ressources qu'est la bibliothèque pour ses publics. Et ceux-ci continuent d'espérer voir l'Encyclopédia Universalis ornée de bleu et de blanc des maîtres d'étagères, alors que celle-ci a rejoint les ténèbres électroniques. Et pour le lecteur, le visiteur, la bibliothèque n'a pas l'Encyclopédia Universalis. La réalité, elle est là. Il faut trouver les moyens de montrer in situ que la bibliothèque est numérique. Je parle de la bibliothèque physique, elle est bien numérique. C'est absolument impératif. Pour que le public assimile ce qu'il ne fait pas du tout aujourd'hui, la bibliothèque est un lieu du savoir, y compris numérique, et pas seulement le lieu de la collection, avec éventuellement quelques tables et chaises. Il y a pas mal de moyens. J'attire l'attention, votre attention sur un mémoire de Frédéric Souchon à l'ENSIB, qui justement a fait son travail sur rendre visibles les ressources numériques dans la bibliothèque. Il a pris l'exemple des bibliothèques universitaires, mais comme il le dit très justement, ça marche aussi pour les bibliothèques municipales. J'ose espérer que vous l'aurez bientôt en ligne sur la bibliothèque numérique de l'ENSIB. Je ne peux pas encore le dire, pour moi c'est un mémoire remarquable, mais il ne sera soutenu que demain. Donc... mais il est vraiment très très bon ce mémoire. Je serais très 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 stupéfait que vous ne puissiez pas y accéder en ligne. Il est vraiment remarquable. Alors parallèlement, on dit, bon, très bien, on va essayer de les rendre visibles, et on dispose de tonnes de bases de données. Mais je pense qu'il ne faut pas non plus se leurrer sur la soudaine richesse que les ressources électroniques apporteraient à toutes les bibliothèques. Disposer de 500 000 titres de revues ou autres documents sous forme électronique par la grâce de l'abonnement à quelques bases de données ne donne nullement au public l'impression qu'il est devant une bibliothèque richissime. La réputation, la valeur d'une bibliothèque pour le public se construisent de façon lente et complexe. Pour être jugé ressource dans un domaine, il faut disposer de collections physiques accumulées, de compétences dans le domaine, d'un réseau de partenaires intéressés au domaine, etc. Est-ce que vous croyez vraiment qu'une base comme PubMed, par exemple, donne à une bibliothèque municipale la moindre réputation en matière de recherche médicale? Non, pas du tout, aucunement. Le public est sensible, étonnamment sensible, à l'intelligence de l'apport documentaire, pas seulement la masse. La masse ne suffit pas dans les collections physiques, soit dit en passant, comme dans les collections numériques. Et là, je rejoins effectivement ce que disait Frédéric Sabi avec la citation d'Erasme. Il faut une bibliothèque où on choisit. Avoir des grandes masses, c'est très bien, mais ça ne nous rend pas riches. Bon. C'est une constante, de toute façon, dans les bibliothèques. Une petite bibliothèque qui dispose d'un unique livre ancien n'a aucune chance d'attirer des chercheurs. Ceux-ci cherchent des gisements, et des gisements non seulement documentaires, mais aussi des gisements d'expertise et une intelligibilité des collections au-delà de chaque titre et de chaque URL. Je continue mes facettes. Allez, celle-là, elle s'appelle de l'os à la moelle. Après le déjeuner, ça s'impose. En posant cette fois-ci les questions de conservation, la force des bibliothèques tient, je le disais tout à l'heure, dans leur capacité à conserver les documents au-delà des modes passagères. Et en fait, elles ont été capables de développer une grande force de proposition à partir de cette sédimentation intelligente. Ce qui ne veut pas dire qu'on conserve pour l'éternité, mais qu'il y a un art de conserver qui permet de mettre en perspective. Les documents numériques, comme je le disais tout à l'heure, sont des documents en fait peu conservables, pour toutes les raisons que vous connaissez, logiciels de lecture, obsolescence de format, etc., etc. En tout cas, peu conservables avec les moyens de chaque bibliothèque prise isolément. Alors nous voilà donc saisis d'une angoisse mémorielle. Comment conserver les documents d'aujourd'hui si difficilement repérables? Il y a 20 ans, les bibliothécaires collationnaient soigneusement le bulletin paroissial ou les publications de la société savante. Aujourd'hui, ces documents ont migré vers le web pour d'évidentes raisons d'économie, d'ergonomie et de diffusion. Comment faire pour continuer à récupérer le bulletin paroissial, continuer à récupérer les bulletins de sociétés savantes qui ne sont plus imprimés? Les bibliothèques sont en fait condamnées à travailler en réseau pour affronter ce défi. Depuis que je suis bibliothécaire, on dit qu'il faut travailler en réseau. Ben, nous y voilà contraints. Enfin, pour une fois, ça sera vrai. La conservation de tout cela, aucune bibliothèque ne peut envisager, ou du moins seules les très grandes, peuvent envisager de se lancer dans une opération de conservation de ces nouveaux éléments numériques qui dépensent en fait beaucoup d'argent tant en infrastructure, mais également qu'en repérage, qu'en vérification, qu'en ajout de métadonnées, etc., etc. Donc on s'appuie sur des très grandes bibliothèques ou on s'appuie aussi sur des réseaux coopératifs, je ne vous apprends rien. Je pense à un des plus beaux réseaux coopératifs en matière numérique, qui est Atitrust, que vous connaissez sans doute, qui fédère plusieurs dizaines de grandes bibliothèques aux États-Unis et qui a une bibliothèque numérique absolument prodigieuse aux États-Unis. Donc, on assiste aussi à un phénomène à cause de cette présence du numérique, c'est que les stocks de la mémoire documentaire se concentrent progressivement et ne sont plus diffus sur tout le territoire de la même façon. Est-ce que pour autant la majorité des bibliothèques peuvent abandonner toute relation à la conservation? On pourrait l'imaginer. Puisque je ne suis plus capable de conserver le bulletin paroissial, donc la conservation ne me regarde plus, sauf à titre résiduel. Mais je vais y revenir. En fait, je ne pense pas du tout pour plusieurs raisons. D'abord, dans la première chose, dans l'univers hybride où nous vivons, le document physique garde encore sa place et n'a pas disparu. Les BU, qui sont pourtant tellement impactés par les ressources numériques, ont encore acquis, je prends les chiffres de l'ASIBU 2010, 1,5 million de livres en 2010. C'est bien la preuve que quelque part, il y a encore une présence malgré tout de l'imprimé, même si je ne nie pas que c'est en diminution d'année en année. Autre raison, conserver le numérique, c'est un défi technologique et logistique, mais c'est aussi un défi intellectuel. Que conserver et comment repérer ce qu'on souhaite conserver? On pourrait croire qu'à partir d'un écran, on a accès au monde, mais avoir accès à l'information dont on a besoin est une opération extrêmement lourde. Je pense à la Bibliothèque nationale de France et ses différentes campagnes qu'elle a faites pour capturer et archiver le web, puisqu'elle a reçu mission de le faire, et qui a choisi de faire en fait des campagnes de dépôt légal thématiques, notamment, je pense, aux campagnes électives, élection de président de la République, élection législative, etc. Pour faire une collecte efficace, la BNF a été obligée, mais elle l'a fait volontiers, de s'appuyer sur tout un réseau de bibliothèques en région, charge à ces dernières fines connaisseuses du terrain fin de ce qui se passe véritablement sur leur territoire, de repérer quelles étaient les sources intéressantes, le blog politique, le blog de ceci, le site de cela, etc., de façon à ce que la Bibliothèque nationale puisse les pomper de façon judicieuse, et non pas tout ramasser, parce que, comme vous le savez, ramasser tout le web, quelque chose qui est quand même légèrement au-dessus des moyens de notre établissement national. La bibliothèque locale, ainsi, ne conserve pas directement, mais participe à la conservation. C'est un changement véritablement de fonctionnement professionnel pour beaucoup de bibliothécaires. Et puis, cette mémoire qu'on a si difficilement conservée, eh bien, il faut la transmettre à nos contemporains. Et c'est là que le bibliothécaire lambda, celui du terrain, qui en fait est débarrassé dans un monde numérique du souci premier de la conservation, peut assumer son autre rôle de passeur. Les campagnes de collecte du web que je signalais sont un bon exemple. Je me souviens à Lyon, par exemple, Patrick Bazin qui est là ne dira pas le contraire, Lyon avait collaboré avec la BNF pour la collecte des campagnes électives et on a tiré parti pour faire des dossiers en ligne qui ont été proposés à l'ensemble de la région et ont eu un très gros succès. C'était les choses les plus complètes, exhaustives et compréhensives qu'il pouvait y avoir sur les élections à cause de cet effort de collecte pour des sites qui, dans les faits, n'étaient pas conservés dans la bibliothèque qui en faisait la médiation. C'est très intéressant comme déplacement. J'insiste sur le fait que cette démarche qui veut collecter pour mieux diffuser, puisqu'en fin de compte, on retrouve le bon vieux dilemme, faut-il conserver ou faut-il diffuser ? Mais là, on conserve pour diffuser. On veut collecter pour mieux diffuser, et ça, c'est particulièrement bien adapté au web. Elle suppose une intelligence du bibliothécaire pour saisir les besoins du public d'aujourd'hui, associer des ressources physiques et numériques, construire des appareils de lecture du passé par notre société moderne, en quelque sorte propulser nos collections physiques dans le web, voire convier les publics eux-mêmes à participer à cette entreprise. À Lyon toujours, je parle de mon expérience aussi, la bibliothèque convie les Lyonnais à déposer leurs photos numériques sur Rhône-Alpes dans la base de données générale des photographies de la bibliothèque, dans lesquelles elles voisineront avec les bibliothèques, les photographies patrimoniales qui ont été numérisées et archivées et qui font l'objet d'une valorisation, médiatisation, etc., auprès de l'ensemble. Le public participe à la construction de la collection grâce au numérique, ce qui est beaucoup plus facile à faire en numérique que ce ne l'est en physique, d'autant plus que pour les photographies en particulier, il n'y a plus beaucoup de dons de photographies sur plaque au XXIe siècle. Quatrième facette, ça j'ai appelé ça, ceci ne tuera pas cela. J'ai même ajouté au contraire. Face à cette hybridation, dans laquelle on est volontiers hypnotisé par les nouvelles manières de lire, de s'informer, de se distraire, toutes ces nouvelles manières proposées par le numérique, certains ont l'impression que c'est une mutation radicale dans les pratiques de lecture, lecture entendue au sens générique. Pourtant, moi je serais plus prudent. Je dirais que l'histoire culturelle montre bien qu'il y a une multiplication des pratiques plus qu'une substitution des unes aux autres. Aujourd'hui, en fait, on lit des livres, on regarde des films, on regarde des séries, on écoute de la musique, on télécharge de la musique, on lit des blogs, on lit le journal sur papier à un moment, on le lit sur un écran à un autre moment, etc., etc. Bref, tout cela se mixe vraiment pour nous-mêmes comme pour une bonne partie de la télévision, la population, pardon. J'avais oublié la télévision dans ma liste et je la rajoute aussi. Bien sûr, avec des équilibres qui sont différents et des proportions qui sont différentes, mais je ne constate pas, même chez ceux qu'on appelle les digital natives, si vous me permettez d'ailleurs, il vaudrait mieux dire, qu'il y ait vraiment cette mutation totalement radicale du un seul moyen de s'informer. Il y a une multiplication des choses. On va voir un spectacle, on va écouter une lecture, on va à une exposition. Tout ça représente une espèce de bain informatif global dans lequel les bibliothèques doivent prendre sa place. Et ça, c'est une très grosse mutation. Il faut quitter l'idée que le seul savoir qu'on transmet est à l'intérieur de pages imprimées. On est là pour le brasser dans son ensemble, faire émerger ces opportunités de savoir, ces expériences de savoir. Et là, je rejoins totalement ce que disaient Frédéric Saby et Florence Roche ce matin. La lecture elle-même, au sens strict, s'inscrit aujourd'hui dans un cheminement cognitif qui est devenu hybride. J'en viens à me demander d'ailleurs s'il n'a pas toujours été comme ça, mais que la fascination pour le codex ne nous avait pas poussé à considérer que ce livre était essentiel, central, absolu, Alors qu'en fin de compte, la diversité des modes d'acquisition de savoir a toujours été assez grande. Et aujourd'hui, la lecture, c'est ça qui change aussi, n'apparaît plus pour nos publics comme une bulle de temps suspendue. Elle participe à tout un cheminement et à tout un ensemble d'activités que j'appellerais informatives ou cognitives. Michel Petit dit justement que la lecture, en fin de compte, c'est l'agrandissement du monde extérieur qui permet un agrandissement de l'espace intérieur. Et quand on regarde cette définition-là, on se rend compte qu'il n'y a pas que la lecture qui participe à ça. Il y a beaucoup de choses. Regarder un film, c'est ça aussi, pour peu qu'il vous séduise. Et c'est dans ce paysage-là que la bibliothèque doit trouver sa juste place. Alors comment ? Comment, par rapport à ça, on va trouver une petite place pour la collection physique de la bibliothèque. Ben, je dirais qu'il y a plusieurs façons de regarder les choses. La première, c'est de constater que malgré les chiffres catastrophiques qu'on nous donne, l'usage des collections physiques se maintient encore. Certes, ça s'érode, je ne dis pas le contraire, mais on n'est pas quand même devant une chute radicale. Je parle des bibliothèques municipales. Les 166 millions de documents physiques prêtés en 2011 dans les bibliothèques, je dis bibliothèques municipales, en excluant ce que le ministère appelle les points d'accès aux livres, c'est quand même pas négligeable. J'ajouterais que les collections physiques patrimoniales trouvent un public immensément élargi grâce à la numérisation de ces collections patrimoniales. En 2011, 387 000 visiteurs sont venus consulter les collections physiques dans les sites patrimoniaux de la BNF. Et parallèlement, Gallica recevait 9,5 millions de visites la même année. Il y a donc une expansion du domaine de la collection, en quelque sorte. Troisième point qui dit qu'on peut faire quelque chose aussi avec les collections physiques, comme avec le numérique, c'est que la capacité bibliothécaire à structurer ensemble des notices de collection physique et des métadonnées de documents numériques pour en faire des pôles de ressources hybrides leur permet non seulement de donner du sens aux ressources ainsi agrégées, mais d'affirmer la capacité des bibliothèques à baliser les chemins du numérique. Et de ce point de vue-là, nous aurons beaucoup, beaucoup, beaucoup à faire sur ce que nos chers catalogues que nous traînons avec nous et qui, à l'heure actuelle, ne sont pas conçus comme il faut pour gérer conjointement le physique et le numérique. Passer du SIGB, ce bon vieux système intégré de gestion bibliographique, au SID, système d'information documentaire, qui est devenu aujourd'hui indispensable pour articuler le numérique et les notices, d'ailleurs, parce que ce n'est pas le physique vraiment, de nos collections physiques. Cette combinaison, associée, donc ces trois éléments que je viens de dire, associée à l'affinement des services, aux accès distants, au confort des établissements, à l'inscription de la bibliothèque dans les événements de la collectivité, permettent aux bibliothèques de se proposer non plus comme un stock, mais comme une expérience multisensorielle qui ne soit plus attachée strictement aux seules collections. Ça rejoindrait ainsi les attentes des étudiants qui sont décrites par Frédéric Fabi et Florence Roche, j'ai lu le livre avant de venir, page 48 de leur ouvrage, qui disent de plus en plus, les étudiants attendent de leur bibliothèque qu'elle remplisse tout à la fois une fonction sociale, lieu de rencontre, d'échange, une fonction culturelle, animation, exposition, une fonction conviviale, petits espaces de restauration, mobilier confortable, fonds de loisirs et de détente, fin de la citation, désormais, la collection n'est pas isolable, la collection rentre dans une expérience multisensorielle au même titre que le numérique. Ce qui oblige à avoir dans les bibliothèques aujourd'hui, y compris dans le domaine de la collection, de laisser une grande place, une immense place à l'expérimentation, à la combinaison, à la réactivité sur des pôles d'intérêt ou des approches thématiques. Je pense par exemple, mais Sylvie Tomolillo en parlera tout à l'heure, au point G à la bibliothèque de Lyon, qui est typiquement, mais comment est-ce qu'on pourrait inventer quelque chose qui soit au-delà des étagères de livres ? et qui sont autant de facettes de la collection vivante autant que hybride. J'arrive à ma cinquième facette. Ça va, je suis dans les temps. C'est bon. 3 minutes. Bon, ben alors. Bon, je vais accélérer. On n'a pas les mêmes heures. Bon, je l'appelais directement réanimer la politique documentaire. Et en effet, vous comprenez qu'avec tout ça, la politique documentaire garde son intérêt, même si elle se trouve complexifiée. On me demande ce qui change. Je ne veux pas m'étendre dessus, ça serait trop long pour les 3 minutes ou les 2 minutes 45 qui me restent, parce qu'évidemment, il faudrait parler des négociations avec les fournisseurs qui sont mal assurés dans leur modèle économique, oser les licences nationales, trouver les nouveaux paramètres, les nouveaux indicateurs. Vous avez plein de manuels et d'articles qui vous expliquent ces éléments techniques. Je ne vais pas m'étendre dessus. C'est important, ça fait beaucoup de choses à assimiler qui viennent s'ajouter aux autres. Nous sommes passés d'une ressource rare, nos collections physiques, qui étaient en fait très avantageuses pour nous, il faut bien le reconnaître, à une abondance de ressources. Et maintenant, on arrive à des surabondantes ressources. Nous entrons dans l'époque des big data. Et il faut affirmer notre capacité à traiter ces énormes données pour les structurer et s'y repérer. Là est l'avenir de notre travail sur ce qui n'est plus, qu'on va continuer d'appeler la collection hybride, mais qui est beaucoup plus complexe que la collection, qui est une sorte de brassage d'un savoir structuré, organisé et propulsé. Et j'insiste sur un point, je vais très rapidement, parce que c'est que dans ce contexte-là, la politique documentaire, elle existe toujours, mais il ne faut pas se tromper de politique documentaire. Une politique documentaire, ce ne sont pas des documents programmatiques, des tableaux de bord ou des évaluations structurées. C'est d'abord un processus actif qui trouve son fondement, et là je rejoins complètement Frédéric, qui trouve son fondement dans les publics de la communauté servie par la bibliothèque. Et en fait, c'est là le paradoxe de l'émergence promise de cette bibliothèque universelle qui se crée en grande partie en dehors de nos établissements. L'avenir des bibliothèques se joue désormais dans leur capacité à répondre aux besoins informatifs de leur collectivité. Et c'est pourquoi elles sont plus que jamais nécessaires, car les publics demandent un accompagnement pour débrouiller dans cet immense écheveau ce qui leur apportera une plus-value cognitive. C'est souligné dans le rapport de l'IGB que je citais au début, qui se conclut avec ces termes-là, à propos des bibliothèques, le centre de gravité de leurs activités se déplace des collections vers les publics. Ce qui ne veut pas dire que les collections disparaissent. Simplement, ça n'est plus le centre de gravité. Il faut toujours se préoccuper de contenu, mais cette fois-ci de contenu hybride, en posant prioritairement les publics au cœur de l'activité documentaire, organiser les contenus, transmettre les contenus, voire produire des contenus nouveaux. Jouer la mise en scène et la surprise plutôt qu'ébahir par le stock, accompagner les publics, former les étudiants plutôt que de se borner à communiquer, aller au-devant des questions plutôt que de s'effacer discrètement derrière les documents. On peut dire en somme que la médiation documentaire a de beaux jours devant elle. Je terminerai, et j'arrive vraiment à ma conclusion, en disant que la collection n'est plus seulement un objet dont on traiterait savamment. Il faudrait parler d'un écosystème de la collection qui s'imbrique dans une sorte de galaxie cognitive. La circulation dans cette galaxie est devenue essentielle et élaborer une politique documentaire est plus que jamais construire un projet de navigation. Je mets navigation au pluriel. Ce qui a deux exigences. Je terminerai sur ces deux exigences qui sont d'ailleurs autant d'alertes. Première exigence, il est urgent que les bibliothécaires développent deux habiletés. La première leur impose de s'approprier les méandres des ressources numériques sans pour autant abandonner leurs compétences documentaires. Il faut savoir naviguer là-dedans en se guidant sur les compétences de contenu qui, les contenus, eux, ne changent pas. Deuxième habileté qu'ils doivent développer, leur activité de médiateur. Sur de nouveaux terrains, savoir constituer des ensembles documentaires, proposer des navigations, convoquer leurs connaissances du passé pour en donner une lecture actuelle, etc. Mon autre alerte portera sur la liberté d'accès aux données. À quoi bon savoir s'emparer des contenus si ceux-ci tombent dans l'escarcelle des faiseurs de profit ? Il est au contraire nécessaire de disposer d'un maximum de données ouvertes. Il me semble que c'est une fonction première des bibliothèques de statut public, défendre et promouvoir le domaine public, en encourager et en valoriser les contenus. Je vous remercie dans les temps.
Est-ce qu'il y a une ou deux questions ?
À propos de ces données ouvertes dont vous venez de parler, est-ce que vous pouvez nous donner votre avis sur la couche de copyright qui est mise sur le patrimoine public par la numérisation à la BNF ? Merci.
Alors, je n'ai pas d'avis sur la BNF exactement, je n'ai pas regardé en détail quelles étaient les conditions. Personnellement, je trouve fondamentalement déplorable qu'on mette un copyright ou toute autre forme de restriction d'accès sur ce qui relève d'un patrimoine dont le contenu est dans le domaine public. À ma connaissance, le fait de numériser quelque chose ne donne pas de droit de propriété intellectuelle dessus.
Non, mais dans la suite de ce que vient de dire Calange, qui est tout à fait juste, moi je le rejoins complètement dans son appréciation. Il se trouve qu'hier soir, j'étais avec Henri Verdier, qui est le chef de l'État Lab auprès du Premier ministre. Et donc c'est celui qui met en œuvre le nouveau data.gouv. Et il a été très clair. Il n'est absolument pas question que les données de l'État ne soient pas totalement ouvertes. Et il nous a expliqué qu'effectivement, il se heurtait à certaines réticences, à commencer par les réticences de certains établissements publics qui arguent du fait qu'ils ont une identité, du fait qu'ils font de l'argent quelquefois avec les données, que ce soit les musées ou peut-être des bibliothèques, je ne sais pas, mais qu'il fallait que ça change. Donc il y a un virage tout à fait clair de l'État actuellement qui consiste à ouvrir au maximum. Donc ça va tout à fait dans le sens que tu dis et je te rejoins dans ton appréciation.
Alors, ceci dit, moi, je ne suis pas hostile au fait qu'on fasse de l'argent avec des données publiques. Hein. Ça m'est égal. Le problème, c'est réclamer le monopole, justement sur quelque chose qui, par définition, a atteint le domaine public, donc ne peut plus faire l'objet de monopole. Mais il faut se méfier. Il faut se méfier parce que la tendance est forte de la part de ceux qui guettent des opportunités de profit de faire rallonger du domaine public, de créer des exceptions. On a des exemples aux États-Unis d'auteurs qui, bien que morts depuis plus de 100 ans, on les a réintégrés dans le domaine privé et on ne peut pas les utiliser. Donc je dis là-dessus, il faut être très très vigilant et vraiment, s'il y a un endroit dans lequel on doit être militant, à mon avis, c'est là-dedans.
Merci beaucoup, Bertrand Calange.